そういうふうな、プログラム。Tout se passe comme si, pour pouvoir vivre et réussir cette mutation d'identité ainsi définie, alors il nous faut retrouver un projet contemporain. Contemporain, actuel, au présent. Or, le projet sioniste, qui a commencé par des mouvements de jeunesse. D'ailleurs, vous savez, l'État d'Israël, c'est un État qui a été fondé par un mouvement de jeunesse, et ça s'en ressent encore. La poste, c'est pas la poste.
Le téléphone.
Et c'est assez juif. On n'arrive pas à prendre au sérieux qu'on fait un essai. Il y a énormément d'humour dans ce texte-là. Mais quand même, ce projet qui consistait à donner une réalité nationale et surtout un État a été déjà accompli. Et par conséquent, tout se passe comme si, il faut maintenant arriver à formuler, en tant que tâche nationale, un projet qui soit contemporain. Je crois qu'on arrive finalement au fond de l'analyse. Un mouvement de jeunesse comme tel n'est intéressé par un projet historique que dans la mesure où, d'une part, il est au présent, quelque chose qu'il y a à faire maintenant, ou d'autre part, il se formule en termes universels. Voilà, grosso modo, le problème. Or, actuellement, les problèmes les plus graves de la société israélienne sont précisément ceux qui devraient pouvoir correspondre à ce qui définit l'idéal du stade jeune en tant que tel. Je vais en énumérer deux. Et je crois qu'il y a là tout un programme et toute une tâche aux dirigeants des institutions ou des mouvements qui ont en charge de penser et de réaliser les rapports entre la diaspora et l'État d'Israël. D'une part, il y a le problème des communautés. Là-bas, ça s'appelle les Aedot. C'est pas exactement des communautés comme ici. On dit à la communauté juive, la communauté protestante, la communauté... Mais il n'y a pas des communautés comme ici, il n'y a pas de Kehilot comme ici. Il y a des Aedot, c'est-à-dire des groupements plus ou moins indifférenciés, mais qui sont des réalités, semble-t-il, monolithiques, des groupements d'origine. Les Edot, ça veut dire les tribus, finalement. Et il y a, dans ce rassemblement des tribus, déjà un premier problème en soi, qui me semble être, en laboratoire, comme je vous dis souvent, mais concret, vraiment dans la réalité des choses, le problème qui se pose aux universalistes. Quel est le rêve de l'universaliste? C'est de rendre possible la coexistence des différentes manières d'être homme. Or, il y a un niveau le terrain sur lequel joue le militant universaliste en général, c'est la planète elle-même, c'est la vie politique entre les nations et entre les pays, et il semble bien qu'à ce niveau, il y a une utopie perpétuelle. C'est-à-dire que aucun mouvement, quelle que soit sa générosité, sa science, sa technique, sa pédagogie, sa politique, sa praxis, n'arrive vraiment à résoudre sérieusement ce problème de la fraternité des nations, de l'universel des hommes. Et cela ressort du fait, je parle là du point de vue des critères de la tradition juive, qu'il s'agit de sociétés des goïmes entre elles. Les sociétés des goïmes entre elles semblent être données à une diaspora sans solution. Et ce n'est pas la première fois à travers l'histoire, nous avons traversé pratiquement toute l'histoire depuis le temps des Hébreux. Ce n'est pas la première fois que ce rêve de la reconstruction de l'universel travaille l'humanité, et une fois de plus nous arrivons à l'échec, et c'est-à-dire au jeu de la rivalité politique, et sous d'autres apparences, c'est la même réalité de rivalité qui apparaît de nouveau. C'est-à-dire, l'universaliste, lorsqu'il pose son problème au niveau de l'histoire des goïmes, est dans l'utopie la plus absolue et va à l'échec. Et alors, comme c'est très dur de reconnaître l'échec d'une espérance de cet ordre, alors on tombe dans les cas précédents dont je vous ai donné des exemples, on fait semblant de ne pas voir la réalité comme elle est, et on choisit ses cadavres, comme je le disais tout à l'heure. Et on perd radicalement toute objectivité, toute chance de pouvoir réussir. Et tandis que dans la société israélienne, nous voyons que par le biais du retour des Juifs, il y a concrètement au niveau de la réalité des villes, il y a le rassemblement des différentes manières d'être homme, c'est-à-dire les haïdos. Et c'est un problème réel. Alors je crois que l'erreur est d'en voir uniquement un problème sociologique, et d'y voir uniquement un problème sociologique. C'est un problème du laboratoire de l'universalisme. Et si les jeunes, et en particulier les jeunes juifs, et je crois que ça vaut aussi pour les jeunes non-juifs, finalement, et peut-être que arrivera le temps qu'ont prévu les prophètes, que pas seulement de chez les juifs, mais aussi de chez les goïms, viendront des jeunes qui iront au laboratoire là-bas. Ouais. Comment est le verset ? Venaharu et lecha kolabim. Ça affluera ils iront voir comment ça se passe. C'est le laboratoire. Je veux dire que si on arrive à enlever cette apparence de problème uniquement social ou sociologique et à y voir la véritable identité de ce problème, qu'il s'agit d'un problème messianique, quelles que soient les apparences, c'est-à-dire de la tentative d'unification des différentes manières d'être homme, et c'est pourquoi d'ailleurs les problèmes de heurts sont réels, alors il y a là place pour un projet universaliste de la jeunesse à ce premier niveau, sur le terrain réel où cela se passe. Je dois vous dire que nous sommes extrêmement frappés, et d'ailleurs en partie handicapés, par le nombre des jeunes des pays nordiques qui envahissent les kibboutzim en Israël. Je crois, vous savez que dans les pays du Nord, la jeunesse est peut-être un indice N plus 1 dans le cas que j'ai essayé de décrire. C'est-à-dire comme s'ils avaient terminé leur histoire nationale et qu'ils sont déjà au stade de la disponibilité au rêve de l'universel. Il n'y a pas plus à la fois naïf et sérieux, mais aussi naïf, au niveau de l'universalisme concret, qu'un jeune nordique. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je ne sais pas si ça traverse aussi la réalité sociale française. Et d'une part, parce que parfois, je disais, on est noyé, parce que très souvent, il n'y a pas de place pour des groupes juifs dans les kibboutzim, parce que toutes les places sont prises des années à l'avance par les Danois, les Suédois, les Norvégiens et les Finlandais. C'est un phénomène qui vient c'est un phénomène assez grave d'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins de kibboutzim disponibles. Et c'est-à-dire tout s'accélère finalement. Les laboratoires actuels vont fonder.
Sur de nouveaux territoires.
Ouais. et puis il y a un deuxième problème, qui lui aussi dans ce cas, c'est indépendamment de cette diaspora interne qui récapitule la diaspora humaine, les différentes manières d'être homme, et plus je vis la vie israélienne, et plus je peux vous dire que vraiment il y a là une réalité qui n'est pas du tout théorique. Les différentes manières d'être homme sont très différentes. Et ce qui se heurte en elles, c'est pas du tout du juif au juif. Et c'est l'homme goy qui a derrière, la culture goy qui a été ramenée avec l'identité de diaspora, elles sont là, toutes ensemble, dans le même endroit, et c'est pas simple. Et il y a là, si vous voulez, un problème à l'échelle de l'humanité tout entière, et en particulier à l'échelle de toute cette jeunesse qui est sollicitée par nature, comme j'essaie de le décrire, par le problème de l'universel. C'est là-bas finalement qu'est le laboratoire. Parce que c'est là-bas qu'est concrètement le terrain de travail. Est-ce que c'est bien clair? Ça ne se passe pas dans les meetings, comme dans le monde. Ça ne se passe pas dans des cercles d'études, ça ne se passe pas dans les journaux, ça se passe pas dans des pétitions, dans des motions. Ça se passe au niveau de la municipale. Est-ce que vous comprenez bien?
Est-ce que l'université a un rapport avec la municipale?
Pardon? En tout cas, pour la vie secondaire, certainement. Les lycées sont en grande partie, lorsqu'ils ne sont pas des écoles des partis proprement dit, ce sont des écoles municipales. Et puis, en ce qui concerne les universitaires aussi, mais beaucoup moins. Et en général, les universités et en Israël, en dominant, c'est pas ce que la nouvelle génération donnera, mais jusqu'à présent, sont beaucoup plus, du point de vue de leur conception et de leur catégorie sociale et politique, sont beaucoup plus des hommes de la Gola que des hommes d'Israël. Les universitaires en Israël sont très européens du 19e siècle. D'abord, ils sont pas du siècle. Ils ont gardé non, pas des super, des mini. en général, c'est ça le problème. Il y a un deuxième problème aussi qui me semble illustrer cette analyse, c'est le problème de la disparité sociale. Et là, c'est un problème grave. Je crois que ce n'est pas par hasard que ça se découpe grosso modo entre Sfaradim et Ashkenazim, mais ce n'est pas un problème entre rite Sfarad et rite Ashkenaz. Au niveau du rituel, il n'y a pas de problème. Chacun le sien. Mais... je vous dis, il n'y a pas de quoi faire un problème, si vous voulez. Mais c'est au niveau de la position dans la promotion sociale. Et c'est en fin de compte pas un problème Sfarad Ashkenaz, c'est un problème de classe au niveau de la disponibilité des biens de consommation. C'est ça le problème. Et là, il y a aussi un champ pour l'application du socialisme pratique, si j'ose dire, et qui est un champ d'activité réel, dont il faut bien prendre garde que c'est une question d'urgence, enfin je veux dire, c'est une question de quelques années. C'est pendant quelques années encore que pourra jouer la fraternité qui venait du fait que les uns et les autres étaient anciennement juifs de diaspora. Et ensuite, ce pas, comme on dit en anglais, cette disparité des niveaux risque de devenir grave. Or, ce qui m'a frappé, c'est que ces deux sortes de problèmes sont effectivement les problèmes qui habituellement sollicitent théoriquement la jeunesse, en particulier lorsqu'elle est authentique, c'est-à-dire de rêve universaliste. Mais c'est par rapport à la société juive, si on n'avait pas les préjugés politiques que je... Ce qui m'a frappé, c'est que ces deux sortes de problèmes sont effectivement les problèmes qui habituellement sollicitent théoriquement la jeunesse, en particulier lorsqu'elle est authentique, c'est-à-dire de rêve universaliste. Mais c'est par rapport à la société juive, si on n'avait pas les préjugés politiques que j'essaie d'écrire tout à l'heure, en tout cas en contexte français, ça joue un peu à l'échelle mondiale, mais c'est surtout en France, à cause de ce qu'a été le problème algérien. S'il n'y avait pas ces préjugés politiques, on arriverait peut-être tout rapidement à diagnostiquer cela. Dans un coin du monde, est en laboratoire, le problème qu'il y a à résoudre au niveau des grands idéaux qui travaillent la jeunesse de l'humanité. Et pourquoi on ne fait pas le rapport? Parce qu'il y a des écrans. Bien, voilà, c'est l'analyse que je voulais vous soumettre. En conclusion, je dirais, si vous voulez, qu'il y a une énorme analogie entre le temps de la sortie d'Égypte, d'après le texte même que j'ai cité, et puis le temps que nous vivons aussi pour ce problème. Bien, si vous avez des questions là-dessus, je veux bien essayer d'y répondre, en tout cas vous avez la parole.
Quelle est la nature possible ?
Comment ?
Quelle est la nature possible ?
Ah, ils sont de tout ordre. Ils sont de tout ordre. Il y a bien sûr des problèmes d'insertion individuelle, il y a des problèmes de choix individuels. Moi, je crois surtout le résultat d'une espèce de propagande qui fait qu'on se masque la véritable enjeu de cette réalité en Israël. À la limite, si vous voulez, pour un peu caricaturer les choses, on s'est habitué très rapidement à l'idée que c'était une communauté juive parmi les autres, celle qui vit sur le pays des ancêtres, à laquelle on est un peu plus sentimentalement rattaché, et que... Il y a des problèmes de nation à nation entre les Israéliens et les Arabes, il y a des problèmes d'intérêts politiques et militaires, alors qu'en réalité, ce qui se passe là-bas, est d'un tout autre ordre. C'est face à l'humanité tout entière qui est occupée à son utopie irréalisable, il y a quelque part un pays ou un laboratoire, les problèmes réels et concrets sont là. Et les Israéliens ont eu la coquetterie de dire de même qu'ils étaient un pays comme les autres. Mais la chose grave, ce n'était pas qu'ils le disent, la chose grave, c'était qu'on le croit.
Si vous pouvez, comment expliquez-vous, dans le cadre de votre analyse et dans cette perspective messianique où Israël est le laboratoire de l'humanité, que le problème séfarade qui en Israël est actuellement posé a été résolu sans difficulté dans le reste de la Galoute?
Pas par les Juifs, par les Goïs?
Non, je ne parle
pas par les... Je vous réponds, les... pas du tout. Alors écoutez, si vous posez le problème en réalité, quelle est la différence? La différence, c'est que dans un pays comme la France, par exemple, où il y a des Sfaradim et des Ashkenazim, eh bien, il n'y aurait eu, à la rigueur, qu'une rivalité, disons, de folklore, de société, de rite même. Il n'y a pas de compétition économique entre Ashkenazim et Sfaradim, en tant que tel, en tant que juif en France. La compétition économique est au niveau de la société française. C'est chez les Goïm qu'il n'y a pas de problème entre Sfarad et Ashkenaz, pas chez les Juifs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Ça vous a l'air peut-être un peu, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire, là-bas, le problème Sfarad Ashkenaz, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, n'est pas tellement un problème de différence de rythme ou de mentalité. C'est un problème social, parce que les uns sont venus avec les moyens de l'économie européenne ou américaine, et les autres sont venus avec que les moyens de l'économie des pays d'islam. C'est ça le vrai problème. Or, le temps galope si vite que la disparité se... je crois que si ces problèmes-là étaient considérés, non pas comme des problèmes sociologiques ou politiques, mais comme le problème de l'identité juive, parce que c'est ce cas que j'ai essayé d'écrire, c'est ça qu'il s'agit, c'est que revenus du monde entier, revenus de partout et de tous les siècles, les juifs devaient apporter avec eux ces problèmes-là, parce que ce sont les problèmes des hommes. Seulement, là-bas, il se pose sérieusement en laboratoire. Et le fait que notre jeunesse, sauf ceux qui ont, si j'ose dire, la grâce d'être dans tel ou tel mouvement qui comprend, qui a une idéologie claire, mais d'une façon générale, la jeunesse indifférenciée, qui n'arrive pas à le diagnostiquer, sont sollicités par d'autres idéaux parce qu'ils ne voient pas que c'est là-bas que ça se passe. J'ai rencontré encore aujourd'hui des anciens camarades avec qui nous étions militants à l'UEJF ou dans d'autres mouvements, ou dans le il y a 20 ans, 25 ans. Et je les ai trouvés en plein désarroi, désemparés, déçus, ils sont gauchistes dans toutes les nuances, etc., etc., avec toutes ces déceptions qu'ils ont pu avoir, l'une après l'autre, et il y en a un qui va parler très longuement, un juif polonais, qui est encore citoyen polonais, des maquis polonais, et c'est un des leaders du UEJF d'il y a 30 ans, et bien, qui me parlait de cette espèce de chose incompréhensible pour eux, du réveil des Juifs russes et du retour des Juifs russes qui reviennent. Et il me disait, au fond, toi, tu sais où tu vas, mais nous, on est en plein désarroi. On peut dire maintenant que nous avons une seule certitude, que personne ne peut prévoir l'histoire. Qu'on puisse prévoir que les Juifs russes, ils puissent leur arriver ce qui leur est arrivé, c'est vraiment inouï. Et alors, ils vont de déception en déception, et cette déception, ils la vivent intensément en tant que juif, parce que finalement chacune d'entre elles les égratigne. Toujours cette incapacité de voir que le rêve est devenu réalité. Enfin, comme je vous ai raconté l'autre soir, mais je vous le répète parce que c'est vrai, c'est cette histoire du leader sioniste qui arrive au bout de 50 ans de militantisme à Tel Aviv et qui dit à sa familia. Qui dit, ben, vous savez, mes enfants, tous les mensonges qu'on vous a racontés, c'est vrai. Ça veut dire, tout ce qu'on s'est répété pendant 2000 ans, les apparences ne sont pas là. Mais en tout cas, que les données du problème soient là, c'est vrai. Écoutez, je ne peux que vous décrire, que porter un témoignage. Dans le même quartier, alors on rencontre des hommes de partout, parce qu'on rencontre des juifs de partout. Et donc, c'est ça le problème de l'universalisme, arriver à vivre ensemble. Et que ce soit réel. Et puis, tous les autres problèmes que je vous ai énumérés. C'est-à-dire, voilà, nous sommes frappés de ce fait. Il y a d'une part les hommes qui ont les exigences d'enthousiasme, d'idéalisme et de militantisme, Et puis d'autre part, le problème qu'il y a à résoudre. Le problème qu'il y a à résoudre là-bas, et les capacités d'idéalisme sont ici. Mais polarisées, encore une fois, à la manière des Juifs de Galoute du 19e siècle, finalement, polarisées vers des séductions d'orthologie universaliste. Vous savez qu'on parle d'orthopraxie, d'orthodoxie, il y a aussi l'orthologie. Mais ce n'est qu'une orthodoxie verbale. Voilà quel est le problème. Alors je crois que ce qui est à souhaiter, c'est qu'apparaisse un nouveau mouvement qui apporte dans le contemporain de l'histoire d'Israël, l'histoire juive en général, quelque chose d'analogue à ce qu'a été le mouvement sioniste il y a 100 ans, qui lui a cessé d'être motivé, puisque sa motivation est réalisée. Comprenez, les choses sont simples. Le mouvement sioniste voulait faire un État, l'État est fait. Maintenant, il faut un autre mouvement. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas d'où ça sortira, mais certainement, c'est ce qui est attendu dans les années qui viennent. S'il y a parmi vous des futurs leaders de mouvements de jeunesse en germe, vous savez que vous avez du pain sur la planche. Oui. Mais justement, toi tu es rentré un peu en retard. Je vais essayer de reprendre ce problème. J'avais d'abord décrit à l'échelle de notre histoire. Dans l'histoire juive, on n'a jamais vécu dans le temps où on était, dans le temps où on existait, dans le temps contemporain. On se définissait toujours, soit par une nostalgie, soit par une espérance. On ne vivait pas au présent. Et au fond, on pouvait définir l'assimilation par cela. Qu'est-ce que c'était un juif assimilé? Qu'est-ce que c'est un juif assimilé? C'est un juif qui veut vivre la vie de son temps, femme, tout simplement. Et voilà qu'il apparaît un cas particulier. En tant qu'Israélien, on peut vivre au présent tout en étant juif. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, l'histoire juive. Ça veut dire que ce sont...
Attendez.
Ça veut dire que ce sont des tâches contemporaines qu'on est en train de résoudre. Tandis que dans la diaspora, qu'est-ce que ça veut dire être militant juif? Et je l'ai fait pendant longtemps. J'étais un peu escalité. Ça veut dire préparer un avenir et conserver un passé. Vous croyez que vraiment qu'il n'y a jamais eu véritablement une vie au présent dans une diaspora, surtout depuis l'émancipation?
Je suis pas d'accord parce que je pense que vivre au présent ne veut pas dire uniquement vivre un présent spatial, mais ça veut dire vivre au présent par rapport à sa propre histoire.
Bon, écoutez, essayons de nous mettre d'accord sur le vocabulaire, parce qu'il s'agissait d'une analyse qui avait son propre vocabulaire. Notre militantisme présent, contemporain, ne serait-ce que dans cette maison, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à préserver le passé et à préparer l'avenir. C'est ça notre présent. Nous n'avons pas de présent en réalité. Nous ne vivons pas. D'abord, vous savez que le présent n'existe pas dans la grammaire hébraïque. Hein? Le présent n'existe pas. En hébreu, il n'y a que le participe présent. Vous savez cela. C'est une indication d'ailleurs d'identité qui est là. Mais je veux dire, est-ce que vous croyez que... Prenez, si vous voulez, dans n'importe quelle manifestation juive de la vie contemporaine, ou bien elle est artificielle, c'est de la mondanité, alors ça c'est présent, on en a, ou bien il s'agit de quoi? Il s'agit d'une vie rituelle qui consiste à préserver la mémoire et à préparer l'espérance. Bon. Tandis que dans la réalité israélienne, et c'est en cela qu'elle n'est pas juive de diaspora, la réalité israélienne consiste à avoir des tâches présentes à résoudre. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire, prenons le problème économique. Bon, il y a une économie de juifs en diaspora, mais une économie juive en Israël. Le problème de la gestion d'une épicerie est un problème très juif. Le problème de la gestion d'une épicerie est un problème juif en Israël. Tandis que le problème de la gestion d'une épicerie pour les juifs en Gola, c'est un problème goy. Je ne sais pas comment vous dire. Votre monde, c'est ça. Non, effectivement, il faut faire l'effort d'identification. Et ça se perçoit surtout chez les enfants. Les enfants ont rencontré le temps de l'histoire. Nous, si sommes déjà arrivés à Duc, là-bas, bien nous serons toujours des juifs de diaspora habitant en Israël, à quelques degrés que ce soit. Mais pour les enfants, on les voit bien, ils sont autres. Ils sont dans un présent à eux. Je ne sais pas si vous comprenez derrière le mot.
Vous voulez dire que ces juifs de diaspora habitant en Israël gardent, dans certaines proportions, selon les nefs, une mentalité de violette?
Deuré d'un potentiel, vous voulez dire. Oui, on est deuré. Il y a un peu de ça. Je veux dire une chose. Ça, c'est, si vous voulez, horizontal. C'est-à-dire, notre être culturel restera jusqu'à la fin de notre vie l'être culturel d'un juif de diaspora, c'est évident. Et c'est pourquoi c'est indéniable. Nous parlons hébreu, mais jamais nous parlerons comme les Sabras. Ça ne sera jamais notre langue de culture à ce niveau-là. Et ce qui m'a étonné, c'est que pour eux, ça peut être une langue de culture. Ça m'a étonné, c'est étonnant. Mais
pour un intellectuel venant de France, vous êtes juif, que d'avoir ça là-bas comme langue de culture, il doit se sentir inachevé s'il l'a comme langue de libertinage
ou de. Vous voulez dire l'hébreu?
Oui.
Bon, il faut savoir que nous sommes la génération qui avons décidé de faire venir nos enfants alors tant que pour nous, c'est tout. Il faut être réaliste et lucide et savoir que c'est comme ça. Remarquez, on lit les journaux hébreux, on écoute la radio en hébreu, on comprend tout ce qu'ils disent, mais on ne parle pas comme eux. Grosso modo, c'est ça. Vous voyez, il y a là un phénomène de présent que, comme juif, nous n'avons jamais connu. Sinon, à des moments très rares, à la sortie d'Égypte, parce qu'Israël faisait son histoire au présent, peut-être au temps de Maccabi, et certainement au temps contemporain.
J'ai une question, Joël.
Oui.
On peut distinguer peut-être le plan collectif et le plan individuel. Dans la diaspora, il faut dire qu'Israël, la France, il faut dire
Oui, ça peut être dit, mais à quel niveau? Je veux dire, en tant, au point de vue de l'identité juive elle-même. Par exemple, donnez-moi un exemple d'identité juive en diaspora qui soit à l'indice du présent, à part la collecte pour Israël. À part la Maccabée.
Il y a tous les niveaux, il y a le niveau existentiel, il y a le niveau intellectuel.
Oui, mais de quoi est fait ce niveau existentiel? De quoi est fait ce niveau existentiel? C'est de vivre dans le moment présent une relation au passé ou à l'avenir. Il me semble. Est-ce qu'il y a un exemple concret? Moi, je suis. Depuis quelques années, je sens bien que je suis en train de vivre une époque de mutation. Et je vous donne là un témoignage.
Il n'y a pas d'autre présent que de vivre dans la
mutation. Eh bien, écoutez, je crois que la grande différence qui faisait la différence entre les juifs et le goy, c'était ça. Que le goy a un présent, et que le juif n'en avait pas, dans toute l'histoire de la galoute. Je crois que, si, que là, on atteint un indice d'une différence d'identité. Alors, le problème est grave, parce qu'il s'agit de savoir que si l'identité israélienne ne s'authentifie pas, alors ce serait une hérésie par rapport au judaïsme, et pas autre chose. Bon, nous avons la conviction que c'est irréversible, ça ira vers l'authenticité, c'est notre problème, ça c'est de la foi. Mais si elle réussit, alors ce sera la première fois depuis le temps de la fondation du deuxième temple, depuis le temps de la sortie d'Égypte, que l'identité juive a vécu au présent. Ça vous explique peut-être ces bouleversements qu'il y a dans notre identité et dans la rencontre entre le juif et l'israélien. Moi, je l'ai vécu, cette rencontre, en tant que juif de diaspora. Et j'ai été toujours frappé par une espèce de je cherche le mot, Goldman dirait le président du Congrès juif mondial, comment il s'appelle ? Et il dirait c'est de l'arrogance. Il l'a dit, j'ai entendu dire, oui, une sorte d'arrogance, une sorte de marché où, genre supériorité, oh les pauvres, vous ne comprenez pas. J'ai vécu ça de l'autre côté. Maintenant je comprends un peu mieux de quoi il s'agit. C'est inconscient, c'est très souvent inconscient, c'est le fait d'avoir embrayé dans le présent. Enfin, je vous le dis ça ce soir de cette manière, ça peut être dit peut-être d'une autre manière, mais cette indication-là m'a beaucoup frappé. C'est que ce peuple, le peuple juif en Israël est jeune, quel que soit son âge, parce qu'il vit un présent d'histoire, alors que ce n'est pas le cas dans la diaspora. Bon, il faut nuancer tout cela, mais il y a quelque chose là d'après.
Nous, répondant en rapport au problème juif, c'est-à-dire qu'on a un mouvement français, on en vit avec la
avec ce qui s'est passé, on va en faire l'avenir, prenez sans un compte israélien comme le Goël ici, bon, bah, il s'est acquis, c'est acquis. Donc il arrive, il va transmettre automatiquement et il dit justement.
On peut le dire comme ça.
Le présent continue à être l'avenir, le passé et l'avenir.
Non, non, c'est-à-dire qu'en Israël, il y aura encore des jeunes, des vieux et des
hommes. Oui, bien sûr, mais c'est pas ce sentiment, cette nécessité de transmettre quelque chose qui ne doit pas être oublié, etc., cette tradition qu'on ne veut pas refuser et qu'on veut absolument maintenir, parce que les...
Voyez-vous, c'est plus qu'un problème de contenu de tradition, c'est un problème d'identité. Je veux dire ceci, c'est qu'en tant que juif de diaspora, nous étions en survie, et aussi en sursis d'ailleurs, partout. Tandis que là-bas, nous ne sommes plus en survie. Je vais essayer de vous expliquer ça peut-être en concept hébraïque et une analyse de M. Neher que je voudrais reprendre ici. C'est la notion de Aharit Hayamim. La notion de Aharit Hayamim, on traduit ça habituellement à la fin des jours. Mais si on confronte ça avec notamment un passage de la Torah qui se trouve au début de la parasha de Vayechi. C'est Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim, Shva Efreshana. Va écrire vous, Yémé, Israël, Lamout. Le texte dit, et Jacob a vécu au pays d'Égypte 17 ans, et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Le Midrash dit, Yémé, Israël, Velo, Israël. C'est un Midrash qui m'était resté hermétique jusqu'à ce que j'ai entendu cette analyse de M. Neher. Il dit ceci, au fond, lorsque les prophètes ont prophétisé pour Aharit Hayamim, c'était pas pour une fin des temps rejetée dans l'eschatologie ultime, c'était pour le temps qui commence après les jours. Qu'est-ce que c'est après les jours? Il y a eu les jours des Hébreux. Et dès que les jours des Hébreux, qui étaient leur temps normal, leur présent à eux, s'achèvent, commence le Aharit Hayamim, l'après des jours, ce qui a après les jours. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Vous voulez dire que l'espérance n'est jamais rejetée à l'infini, il n'y a pas de...
L'espérance des prophètes concernait le temps de l'exil dès le début, et pas le temps de la fin. Que tout ce qui était dit de Aharit Hayamim, ça veut dire après... la période qui commence après les jours. Je reprends le Midrash de Jacob, maintenant c'est beaucoup plus clair. Le Midrash voulait dire, les jours d'Israël s'approchèrent de leur terme, mais pas Israël. Israël reste vivant, mais en survie. Et c'est le seul peuple qui est capable d'être un peuple de la Harit Hayamim. Lorsque les peuples vivent leur vie, puis c'est fini. Un succède à l'autre. Tandis que nous avons vécu notre présent, mais c'est un présent très ancien, celui des Hébreux. Et puis depuis la fin de ce temps-là, nous étions en survie. Ce que je disais, achronique, pas anachronique. Anachronique aussi, mais enfin disons, achronique. Et ça a été la valeur, et ça a été la grandeur, et la majesté de l'identité juive. D'être capable de vivre dans le présent des autres, mais dans sa propre survie, dans son propre Aharit Hayamim. Alors tout se passe comme si ce Aharit Hayamim, c'est pas la fin des temps, c'est tout le temps de l'exil. Et nous sommes nous maintenant, en tant qu'Israéliens, à la fin de Aharit Hayamim. Si j'ose dire. Voilà à peu près le problème. Alors je crois qu'il y aurait de nouveau une motivation à trouver qui ferait raccrocher les Juifs à ce projet israélien. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est d'ailleurs, je vois que vous avez déjà reçu l'information juive où j'ai écrit un peu en ce sens-là. Ce qui me frappe toujours, c'est cette espèce d'arbitraire du tri. Il y a un postulat de foi que je vous formule, le fait d'être convaincu que, quelles que soient les apparences, c'est bien par là que ça passe, et que c'est irréversible. Bon, ça c'est un autre problème. Mais enfin, ceci dit, si le tri a ce critère-là, alors il y a une espèce d'arbitraire dans le tri qui pose un problème de responsabilité aux leaders de la génération, d'arriver à reformuler la réalité juive, et en particulier israélienne, en termes juifs, et ne pas tomber dans ce piège de la particulariser dans cette espèce de propagande, du genre de pseudo-propagande du sionisme classique, qui est d'un niveau absolument inférieur du point de vue de ce que peut être la culture d'un pays de diaspora, et en particulier en France. Je me souviens d'un souvenir qui me revient à l'esprit, certains d'entre vous peut-être l'ont déjà entendu. Vous vous rappelez que lorsque les Israéliens sont arrivés à capturer Eichmann en Argentine, il y a eu une tension entre l'Argentine et Israël, et puis il y a eu une réunion entre Ben Gurion et le président de la République d'Argentine en Hollande. Et c'était secret. Mais comme tout ce qui est israélien, nous étions 200 convoqués à cette réunion parce que Ben Gurion qui voulait en même temps profiter de voir les leaders du mouvement jeunesse de l'Europe et leur parler. Bon. Alors, moi je représentais les EI, si je me souviens bien, oui, c'était les EI, à cette réunion. Et alors, quand mon tour était venu de parler, à l'époque j'étais pas du tout sioniste, d'ailleurs je dois vous dire que je ne suis pas du tout, encore plus, je suis devenu de juif à israélien sans avoir été sioniste. Eh bien, le paradoxal, mais c'est pas tout. Eh bien, alors j'avais dit ceci, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeunesse juive devienne, monte en Israël et devienne israélienne. Alors je lui avais répondu dans mon hébreu de prononciation algérienne, et il m'avait même demandé, mais où tu as appris l'hébreu? Je lui ai dit, parce qu'il trouvait que c'était français. Alors, quand je lui ai dit en Algérie, il s'est rassuré, parce que à l'époque, il ne comprenait pas qu'on puisse prendre l'hébreu en France. Vous savez, comme les choses changent. Alors, d'ailleurs, je suis français, puisque je suis algérien. Mon verre est une chose aussi. Donc, nous avons toujours été des casse-pieds noirs. Eh bien, alors il a répondu, ma réponse serait qu'il faut envoyer des shlichim de qualité. C'est-à-dire qu'il sache donner une motivation qui soit à la hauteur des catégories mentales. Alors finalement c'est un homme très intelligent quand même, d'autre part. Alors, il a très bien répondu, il m'a dit, les shlichim de qualité, on les garde, vous débrouillez-vous, il nous a dit, et puis les shlichim de qualité, on les garde pour la Birmanie, l'Ouanda et la Guinée. On a aussi des déceptions avec eux. Enfin, d'ailleurs, la réponse était d'angle messianique. Ça veut dire, si déjà on a des shlichim de qualité, ce qui est rare, alors on les envoie en Birmanie ou en Guinée. Vous comprenez quel est le problème. Mais il y a là effectivement un problème de motivation, de remotivation, et qui, je crois, dans l'état des choses, ne pourra pas venir des Israéliens eux-mêmes. Il faudra que ça vienne les Juifs de la diaspora eux-mêmes.
Il me semble qu'on a un problème d'avoir une Torah au présent, et que dans la Galoute, depuis quelques centaines d'années, l'enseignement de la Torah était quelque chose d'un peu marginal. Il est probable que ce dont on a parlé ce matin dans l'Aftara de Shabbat Agadol, Leshiv Levavot Almanim, signifie cela. C'est-à-dire que...
Effectivement. C'est-à-dire que à ce niveau aussi, c'est le même problème. Vous savez, je me souviens, quand nous avons commencé, nous étions quelques-uns juste après la guerre, il y a une trentaine d'années, quand nous avons commencé à prétendre étudier la Torah Stam, et l'étudier surtout alors que nous étions des étudiants à l'université, on nous a pris pour des fous. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces farfelus, hein, qui ouvrent des vieux livres, ça a été réédité depuis, mais à l'époque on avait des vieilles éditions d'ailleurs, qui ouvrent des vieux livres alors qu'ils sont d'autre part à l'université. On nous a pris vraiment pour des... Nous n'étions pas au présent. Là, ça commence un peu, quand même. Ça commence à aller de soi qu'on parle du Talmud, du Midrash, comme quelque chose d'aussi honorable que n'importe quel secteur de la culture, ne serait-ce que ça. Voilà encore un autre exemple de l'incronisation, comme disaient les philosophes, de l'identité juive. Quelqu'un qui faisait du Talmud dans un milieu universitaire se sentait objet d'archéologie. C'est vrai. Maintenant, ça a changé, mais c'est vrai. D'autre part. D'autre part. Mais le problème a été grave surtout depuis l'émancipation. Depuis l'émancipation, celui qui voulait être juif et pas assimilé était peut-être au second degré achronique. En tout cas du point de vue de son identité culturelle. Alors quand je pense par exemple que ma fille, pour passer son bachot en Israël, doit présenter un examen avec 300 chapitres de Bible et 50 pages de Talmud, alors c'est rentré dans le présent.